C'est l'esprit des lieux sur Radio Barthas. Bienvenue. Vous êtes au cœur d'un territoire vivant, niché dans des paysages que l'on dit caractéristiques. Ce territoire évolue tous les jours grâce aux femmes et aux hommes qui y posent des pierres, prennent des décisions, qui récoltent et sèment des plantes, qui se déplacent sur ces chemins. Derrière nous, des siècles d'histoire et d'intervention ont façonné le décor et nous voici, acteurs, consommateurs, à nous de jouer et de faire des choix, à nous d'agir ou pas, pour poursuivre la construction ou la déconstruction, tout simplement pour vivre au mieux ensemble sur cette géographie si particulière, le tout connecté au monde qui nous entoure et aux lois qui régissent les sociétés humaines. Je vous propose le temps d'un entretien radiophonique d'évoquer ces liens si particuliers. Tentons de conjuguer l'action et le territoire en compagnie d'une ou d'un invité, de parler de nos paysages et de ce qu'on décide d'en faire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec un élu de la République, en la personne de Jean-Max André, maire d'une petite commune de la vallée française en Lozère, la commune de Gabriac. Bonjour, monsieur le maire.
Bonjour.
Bon, je vous appellerai monsieur André, comme vous l'avez demandé. Et je précise que nous ne sommes pas dans les locaux de Radio Barthas, comme pratiqué généralement, mais chez vous à Gabriac. Donc merci de m'accueillir, c'est très gentil. Alors monsieur André, vous êtes maire depuis 1989.
Voilà, oui.
D'une commune rurale, nichée dans cet écrin très connu de la vallée française. C'est un paysage de forêt, de terrasses cultivées, de fonds de vallée schisteuses. Vous présidez, si je puis dire, à sa destinée avec les compétences et les missions dévolues à une commune, et bien évidemment pas tout seul, vous êtes entouré d'un conseil municipal et vous travaillez avec une communauté de communes, donc un regroupement de communes de la vallée qui a également ses propres compétences. Donc nous allons évoquer votre action, votre regard sur le territoire et bien évidemment celui qui vous entoure. Et surtout tenter de comprendre où et comment se passe la rencontre entre l'homme que vous êtes et l'esprit des lieux. Alors c'est parti pour l'esprit des lieux sur Radio Barthas. L'esprit des lieux, c'est le nom de l'émission. Alors Jean-Max André, être maire d'une commune, être élu de la République dans un territoire rural, montagnard, ça signifie quoi pour vous ?
Ça signifie, en 89, quand je me suis présenté, j'avais des convictions pour notre vallée, et donc j'ai été élu, donc j'ai évidemment battu mon prédécesseur. Ça a fait un peu de remue-ménage dans la vallée. C'est la première fois qu'on faisait campagne à Gabriac. On avait fait une vraie campagne, on allait voir les gens. Et donc ça se faisait jamais. Le maire était désigné.
Voilà.
Il s'auto-désignait et après j'ai voté pour lui.
Donc là vous aviez un programme.
On avait un programme. Alors moi j'ai été un des premiers, le premier maire à faire un conseil municipal avec des gens, avec des néos et des autochtones.
D'accord.
En moitié-moitié, enfin pas moitié-moitié, parce qu'on était au départ 6 autochtones et 5 néos.
D'accord.
Ça avait fait à l'époque beaucoup de bruit.
Finalement, c'était représentatif de
Oui, ça représentait la population qu'il y avait dans la commune. Et donc, nous avons été élus, voilà, le premier mandat, je ne vous cache pas que ça a été très dur, parce que moi, j'avais été quelques mois conseiller, j'avais démissionné lors du précédent conseil. Et après, donc je me suis retrouvé là à la tête. J'avais des idées, mais les appliquer, c'était le fonctionnement de la commune, j'ignorais totalement ce que c'était. Alors évidemment, on fait des boulettes. Mais enfin bon, ça ne nous a pas empêché de... Le premier travail, c'était comme dans un regroupement pédagogique qu'on avait monté quelques années avant, d'agrandir la salle de classe de Gabriac. C'était notre première mission. C'était un projet qui datait depuis tellement longtemps que c'était devenu une mission, parce que sinon on fermait l'école.
D'accord.
Voilà, donc mon prédécesseur n'était pas trop... Ils s'en moquaient.
Pas trop engagé sur ce sujet.
Donc nous, dès qu'on a été élus, on s'est lancé là-dedans. Et donc on a fait l'agrandissement. Donc depuis, l'école existe toujours à Gavrillac. Je sais que ça risque de peut-être pas durer parce que les effectifs sont en baisse. Mmh. Mais bon, voilà, ça fait plus de 30 ans que ça...
Vous récoltez les fruits là, de ce
voilà,
que vous avez
lancé oui, parce que
30 ans.
C'est vrai que le regroupement pédagogique qu'on avait monté, moi j'avais des enfants petits à l'époque de 2 ans qui étaient en âge scolaire, ça a été le premier en France, donc à faire, c'était une pas une galère, mais il fallait convaincre les politiques et surtout les inspecteurs d'académie à l'époque, qui était assez difficile.
Là, vous nous expliquez pourquoi vous êtes devenu maire, parce que vous vouliez changer les choses, monter des projets. On parle souvent de pouvoir politique. C'est quoi aujourd'hui votre pouvoir réel sur l'évolution de ce territoire en tant que maire ?
En tant que maire, il est... Et sur la commune humaine, même, il y a changé les choses. C'est surtout en travaillant avec la communauté de communes. Avant, c'était le CIVOM, après le syndicat mixte, communauté de communes. Tout ça, c'est des structures qui se sont succédées. C'est là que, dans la vallée, on a le pouvoir d'améliorer les choses. Le CIVOM, il y a 40 ans ou 50 ans maintenant, il a fait une zone artisanale.
À Sainte-Croix.
À Sainte-Croix. Donc le CIVOM, à l'époque, l'avait fait pour un sieur qui voulait s'agrandir. Après, quand la zone a été faite, le sieur, il s'est jamais installé. Donc il est resté plus de trois quarts de la zone artisanale inoccupée pendant plus de 30 ans. Voilà, avec les frais que ça cause, parce que bon, il y a des intérêts d'emprunt et tout ça.
Bien sûr.
Donc on a commencé à... Et maintenant, la zone artisanale est remplie depuis on va dire 7-8 ans. Non, même pas, oui, l'atelier végétal qui a été construit il y a 3 ans. Voilà, c'était le dernier lot qui a été monté, donc il y a 3 ans.
D'accord, donc en fait,
donc voilà, c'est le pouvoir économique. Donc nous, la politique du CIVOM à l'époque, je parle de quand j'étais jeune ou jeune élu, ça a été toujours de favoriser l'emploi. Le CIVOM à l'époque a créé une association qui a monté la menuiserie Valbois il y a maintenant plus de 40 ans. Il y a donc... l'atelier de ferronnerie, il y a l'atelier de transformation viande, il y a la distillerie plante infuse, il y a maintenant l'atelier végétal. Au bout de la zone, il y a la déchetterie, qui s'est montée il y a 12-15 ans, un garage, que c'est la communauté commune qui l'a fait. Donc voilà.
Donc en fait, finalement, c'est vous en tant que commune qui participiez avec d'autres élus, avec vos collègues de la vallée,
à
tous ces projets.
Le regroupement pédagogique, donc, c'était aussi une volonté des communes, parce que là, à l'époque, on était à CIVOM, mais c'était beaucoup plus... ça n'intéressait pas toutes les communes. Donc il y a Montlozon, Sainte-Croix, Gabriel sont penchés sur le problème. Comment conserver un maximum d'instituteurs, des écoles fermées. Donc après, on a fait le regroupement pédagogique en maintenant l'école de Gabriac et l'école du Pont-Ravagé et l'école de Sainte-Croix. Donc voilà, c'est une volonté politique de maintenir l'emploi, d'attirer les gens, parce que c'est vrai que le regroupement pédagogique, c'est au niveau éducation, d'après ce qu'on a depuis, quand on parle du collège, tout ça, les profs du collège, ils disent qu'on reconnaît les enfants qui viennent du regroupement pédagogique parce qu'ils sont habitués à changer d'instituteur, de classe. Et donc, tout ce petit train-train, quand on passe au collège, ça donne un peu des habitudes aux enfants.
Mais du coup, sur la commune même, en tant que maire, il n'y a pas beaucoup de maîtrise de...
On a la maîtrise, bon, de toutes les communes, c'est comment faire fonctionner le téléphone, comment faire améliorer les routes.
C'est le fonctionnement quotidien, en fait.
Voilà, c'est les relais de vision aussi, c'était un CIVOM aussi, ou un communauté commune, ou un syndicat mixte, je ne sais plus. Il y a eu un programme général de relais télévision pour que tout le monde ait la télévision. il y a oui, 30, 40 ans. Maintenant, c'est obsolète parce qu'il y a les antennes parabole et tout ça, mais ça ne sert plus. Les relais ne servent plus à rien, mais bon.
Ouais.
Voilà, mais on l'a fait, donc ça, parce que les gens, c'était à demander des gens, et on s'est toujours débrouillé à trouver des financements pour ou des aides. Donc, TDF, à l'époque, jouait le jeu aussi, ce qu'ils ne font plus maintenant. Voilà.
Et vous pensez que là, une commune comme Gabriac, qui est une petite commune, il y a combien d'habitants à Gabriac ?
Au dernier recensement, on est 115.
115, donc c'est une petite commune.
Ça a toujours été une petite commune. On était 92 quand j'ai été élu maire, donc on est monté jusqu'à 118, ouais. 119.
Voilà.
Voilà, là, le dernier recensement, il y a eu des petits loupés, mais enfin, bon, voilà.
Ouais. Est-ce que c'est une commune qui, à votre sens, bien représenté au sein de la petite commune, au sein de la vallée. Est-ce que vous avez votre mot à dire ? Est-ce que vous êtes entendu, même en tant que petite commune ?
Toujours. La commune de Gabriac, depuis toujours, a été bien représentée. À une époque, tous les présidents d'association étaient de Gabriac.
C'est-à-dire qu'il y avait déjà une dynamique ici.
Il y a toujours une dynamique. Puis la dynamique a été surtout travaillée avec Sainte-Croix depuis tout le temps, depuis gamin. On était à Sainte-Croix quand on était jeune, on faisait les fêtes là-bas, on organisait tout sur Sainte-Croix. Mais la commune, on n'en tenait pas trop compte. Elle existe.
Mais elle était là, sous-jacente.
Mais moi, c'est vrai que depuis que je suis élu, j'ai aidé à développer Gabriac, à accueillir les gens. On a fait des fermes relais.
On va en parler de ça tout à l'heure. Une question un peu originale, est-ce que vous échangeriez votre position contre celle d'un maire élu dans un paysage de plaine, dans un territoire très différent, se développe avec beaucoup, vous voyez, beaucoup d'économies, beaucoup de moyens?
Oui, mais oui.
Vous l'échangeriez cette
position? Non, mais je ne changerais pas, parce que moi, à l'âge de 11 ans, j'ai décidé de rester ici avant de partir à l'école. En décidant de rester ici, je savais que je n'irais pas aller en 6e, donc je savais que... voilà, je serais bloqué sur cette terre, et c'était mon souhait de tout gamin, donc vivre ailleurs qu'ici, c'était pas possible. C'était pas possible.
D'accord. La vallée française, ses versants Cévenol, on est vraiment dans un paysage caractéristique des Cévennes. Comment qualifier ce territoire, avec quels mots ? Quelles sont ses forces ? Comment vous le décriveriez ?
Sa rudesse.
Rudesse.
Sa rudesse et sa beauté. Et sa rudesse qui fait sa beauté, on va dire, voilà.
Parce que, effectivement, c'est un paysage connu, reconnu. Oui. La vallée française, oui. On en parle, c'est un endroit touristique. Et puis, il y a aussi ce poids de l'histoire, je trouve.
Oui.
Quand je suis arrivé ici, moi, j'ai trouvé que c'était très prégnant. Il y a l'histoire religieuse, bien sûr, avec tous les épisodes compliqués qui se sont passés ici. Et puis il y a tous ces paysages construits avec de la pierre, tous ces hommes qui ont construit ces paysages. Est-ce que vous le ressentez, ce poids de l'histoire ? Est-ce que c'est...
Oui, mais on y est dedans, oui, on le ressent tout le temps. Je le ressens quand j'ai qu'à tourner les yeux, quand je vois les magnaneries, les constructions gigantesques de magnaneries qui ont été faites il y a presque 2 siècles. Et donc à ce moment-là, on n'imagine pas les gens. La somme de travail que ça représentait de construire des maisons de plusieurs étages, à charrier des cailloux, du sable, à faire chercher de la chaux au Pompidou, et voilà, mais c'était les bancelles, et voilà, et puis la culture difficile.
Et comment ils ont fait ?
Voilà, comment ils ont fait, mais ils étaient nombreux. Voilà, on sait, Gabriac, il y a, en 1830, il y avait 385 habitants à Gabriac. Il y avait beaucoup moins de maisons que maintenant.
Voilà, ils étaient plusieurs par, par donc, foyer, voilà. Et beaucoup plus de monde.
Et donc, c'est ce qui explique aussi.
Donc, il faut s'imaginer un paysage beaucoup plus ouvert, peut-être ?
Beaucoup plus ouvert.
Cultivé, beaucoup plus exploité.
Beaucoup plus exploité, oui. Cultivé, non, il y a beaucoup moins de cultures. Maintenant, il y a beaucoup de prairies.
Ouais.
Sur Gabriac, on est une commune où il s'est créé beaucoup de prairies.
Sur les fonds de vallée ?
C'est sur là, ou sur les travers, sur les coteaux,
que
ce soit sur Campeménard, sur la Falguière, sur Gabriac. Mais c'était le châtaignier. Moi, les châtaigniers, moi, quand j'étais gamin, on ramassait les châtaignes du mois d'octobre jusqu'au temps qu'ils ne gelaient pas. Il arrivait de faire deux ou trois séchoirs dans l'année, toujours deux séchoirs.
D'accord.
Voilà.
Et donc vous alliez de ferme en ferme
non,
aider,
non,
aider
non,
les gens
non, chacun ramassait ses châtaignes, sa propriété, et puis après on les transportait à la claine, on les séchait, on dépiquait, et après si on avait le temps, on en refaisait une petite, et voilà.
D'accord. Et ça, à votre sens, tout ce travail paysan, rural, autour de la châtaigne, autour de ces paysages traditionnels, c'est un peu en voie de disparition ou pas ?
La châtaigne, j'ai vu mourir la châtaigne, oui. Et maintenant, ça redémarre. C'est, dans l'agriculture, une production qui meurt et qui renaît, ça n'arrive jamais. Enfin, moi, je n'ai pas connaissance. La châtaigne, il y a 15 ans, il y avait quelques châtaigniers que les gens ramassaient pour leur consommation personnelle. Mais il y a sur Gabriel qui a... Actuellement, il doit y avoir 7 ou 8 hectares de vergers...
Entretenus, exploités. Donc avec des professionnels
Avec des gens qui vivent de ça, oui.
Et ça, vous pensez que c'est quelque chose d'unique?
Oui, unique, parce que moi, j'ai vu la châtaigne quand j'étais gamin. On ramassait les châtaignes, on vendait les blanchettes, le reste allait pour les agneaux, les brebis ou...
C'est quoi les blanchettes?
Les châtaignes sèches.
D'accord, oui, d'accord.
Le bajana, la blanchette, la châtaigne sèche.
D'accord.
Voilà.
Et donc vous avez vu cette économie repartir?
Oui, mais la châtaigne, plus personne n'en faisait. Pendant 10 ans, il n'y avait pas une claide qui tournait, ni rien. Puis après, ça a redémarré.
Qu'est-ce qui s'est passé alors?
Les gens...
Les gens qui sont revenus
qui sont revenus. Moi, j'ai mon cousin qui a remis sa claide en route... Enfin, c'est son fils qui continue, mais il avait remis la clé en route parce qu'il avait marché sur la farine qu'à l'époque on n'avait pas, donc voilà. Ouais.
D'accord.
Pour revenir à la clé, moi, la dernière année que j'ai fait un séchoir à châtaigne, on gagnait 5000 francs. Maintenant, c'est 8-10 000 euros ou plus, je ne sais pas exactement, voilà.
D'accord, ça veut dire que finalement, c'est la demande extérieure, la demande des gens en ville ou ailleurs, même peut-être ailleurs en Europe, je ne sais pas.
C'est pas en Europe,
c'est en France, voilà, le marché qui se constitue et qui a un impact direct sur ce paysage.
Oui.
Donc finalement, vous êtes... Enfin, ces paysages, et pas que Gabriac d'ailleurs.
De la cadre hospitalière jusqu'à Saint-Étienne,
voilà.
C'est le même.
Les vallées Cévenoles sont finalement tenues.
Voilà.
Il y a un petit côté fragile aussi, puisqu'ils sont dépendants. Ces paysages sont dépendants de la demande extérieure.
Voilà. Oui. On est dans l'économie normale, on va dire.
Voilà. Alors qu'avant, je parle de ça il y a un siècle ou deux, c'était une économie très.
Il y a 70 ans.
Qui était sur elle-même, quoi.
Non, moi, je l'ai connue, c'est cette époque où c'était pratiquement de l'autarcie. Et les gens, il fallait de l'argent pour acheter des vêtements, du sucre et les courses. On mangeait pratiquement. Il y avait 3-4 productions sur l'exploitation. Il y avait évidemment les jardins, les châtaignes, les fruits. Et on conservait tout. Et voilà. Il y avait à l'époque les stérilisateurs et tout, ça, c'était la révolution, les poules parfaites.
Et quand les gens se déplaçaient, quand vous étiez enfant, les gens se déplaçaient, ils allaient où? Ils allaient à Saint-Jean, ils allaient à...
Saint-Jean. Saint-Jean, c'était le car.
Ouais.
Quand j'étais vraiment gamin, quand j'avais 5 ans, 10 ans, le Toubib, c'était Saint-Jean,
D'accord.
Voilà. Saint-Jean, il y avait un car. Saint-André, il y avait un docteur, mais il fallait y aller à pied, donc ça prenait plus de temps, surtout quand on est malade.
Oui, certes.
Alors c'était le docteur Saint-Jean, c'était le docteur Boissier Saint-Jean qui faisait office de docteur, qui accouchait les femmes, donc voilà.
Est-ce que y a une part de nostalgie dans ce que vous dites, un pays... plus simple, plus rude, plus...
Non, il n'y a pas de nostalgie à voir.
Il n'y a pas de nostalgie.
Non. Il faut voir l'histoire, mais je trouve... toujours regarder devant que derrière. Moi, j'ai toujours fait ça, donc ma foi.
Vous êtes obligé de toute façon en tant que maire. Voilà. Sinon, oui, vous posez sur le passé.
Si on dit si c'était mieux avant, c'est pas bon. je suis pas de celui-là, moi.
D'accord. Et en fait, ce que vous me dites, c'est qu'aujourd'hui, les Cévennes, c'était, il fut un temps, un territoire enclavé qui était presque en autarcie. Aujourd'hui, c'est ouvert sur le monde. Et du coup, lié à ces fluctuations et à la demande. Could have sworn I heard you say amen this morning.
Yeah. La voix de Ben Harper avec ses musiciens, The Woman in You, extrait de Born to Shine, un album de 1999. On est vraiment à une période charnière pour Ben Harper. Après deux albums un peu confidentiels, un peu solo, Monsieur Ben Harper devient un véritable chef d'orchestre qui est capable de rassembler les gens dans un stade, de remplir des stades autour de sa musique et de sa voix. Allez, on retourne avec Jean-Max André pour la suite de l'entretien de l'Esprit des lieux.
Et bon, on a parlé de paysage agricole qui évolue. À part la châtaigneraie, qu'est-ce que vous observez comme évolution sur les 30-40 dernières années, ou alors par rapport à quand vous étiez enfant? C'est quoi les évolutions majeures de ce territoire?
L'évolution majeure, ça a été l'élevage des chèvres, donc la création de la coopérative à Moissac. Donc ça remonte, c'était en 58.
D'accord.
La création de la coopérative, voilà. Ouais. Donc c'est ce qui a, ça a pas voulu, si ça. Un peu le paysage, parce que beaucoup ont créé des prairies. Moi j'en ai fait en tant qu'agriculteur. Moi, j'ai ouvert une douzaine d'hectares.
D'accord. Et ces hectares de prairies, elles ont été ouvertes sur quoi?
Sur des châtaigneries.
Sur des châtaigneries.
On a coupé, arraché châtaigniers et...
Créé des prairies.
Créé des prairies. Donc,
c'était un sacré chantier aussi, ça.
Ça, c'est du boulot. C'est du boulot, mais bon, tant que c'est fait, voilà.
Voilà, ouais.
Et en même temps, ça fait des paysages plus ouverts.
Ça ouvre l'espace.
Voilà. Et puis, c'est vrai que quand on regarde, quand on passe de côté de la Falguière, eh bien, on voit Gabrières, c'est pas le même paysage qu'il y a 30 ou 40 ans en arrière.
Donc, ça veut dire que le paysage, finalement, il s'est diversifié.
Voilà, oui.
C'était... quasiment que de la châtaigneraie.
C'était que de la châtaigneraie. Bon, les endroits où la châtaigneraie était... où les châtaigniers poussaient très bien. Donc c'était de la châtaigneraie bien entretenue, où on taillait les arbres, où les fruits étaient ramassés. Puis après, bon, l'abandon de la châtaigne, on n'a plus taillé les arbres, les bouscas sont arrivés, les vieux châtaigniers sont quasiment tous morts. Et un autre événement aussi, c'était dans les années 50-60, les coupes pour le tanin qui ont ravagé toutes les châtaigneries et fruits qu'il y avait dans Gabrières.
Ah oui.
Voilà. Et sur Gabrières, la commune fait 800 hectares, il y a au moins 400 hectares qui ont été coupés dans ces années-là, pour le tanin.
D'accord, donc ça devait être assez... assez important. Enfin, comment les gens ont perçu ça? C'était un peu une...
Ah, les gens, oui.
Il y avait un avant, un après.
Mais c'était une période difficile. Le ver à soie était pratiquement... s'est arrêté aussi dans les années 60. Donc les gens avaient besoin d'argent et on leur proposait 4 sous pour le vendre leur châtaignier.
Ils sont allés.
Ils sont allés, pas tous. Moi, je sais que mon père a toujours refusé ça.
D'accord.
Donc voilà.
Et
donc,
pourquoi? Pour des...
Parce que voilà, on cultivait les châtaigniers, puis après, bon, il ne voulait pas...
Principe un peu ancré de culture.
Oui, voilà. Il n'a pas voulu abattre... il n'a jamais fait abattre châtaignier. Mais ça n'a pas empêché que moi, je l'ai coupé, bon, je l'ai arraché pour faire des prairies, mais voilà.
Voilà.
Mais c'était pas la même finalité.
Les Cévennes ont traversé des temps difficiles.
Toujours.
Toujours.
Toujours, oui, mais... et je sais pas, vu la tournure que prend l'agriculture, moi je suis convaincu que l'agriculture ici se portera pas plus mal qu'ailleurs, même mieux, je suis convaincu, parce que nos petites productions
sont plus solides.
Sont plus solides parce que c'est la vente directe, donc on est moins impacté par les primes que peuvent avoir des moutonniers ou des vaches, des bovins. Donc,
ou des grands cultivateurs.
Je ne parle pas d'eux parce que ça c'est de l'arnaque là-haut. J'en connais d'ailleurs, je peux le dire. Donc voilà, non, mais nous, je dirais qu'en élevage de caprin, et c'est vrai que les subventions PAC et compagnie sont importantes, mais il y a des productions comme le fromage fermier. Les produits directs, les cochons, la charcuterie, les canards et compagnie, c'est des productions qui marchent très bien. Et les légumes, quand on voit le nombre de gens qui font des légumes dans la vallée française...
Il y a une demande.
Et qu'il y a une demande et que c'était pratiquement... Personne ne le faisait il y a 15-20 ans en arrière.
Il y a une demande, tout à fait. Et Quels sont, à votre sens, comme ça, si on imagine, si on se projette à 20 ou 50 ans, quels sont pour vous les risques majeurs ? On parle de dynamique, de changement. Est-ce qu'il y a un risque ? Est-ce qu'il y a une fragilité ?
Il y a le risque que les gens, des villes veuillent à tout prix avoir des endroits pour se promener. Et donc, quand on voit le peu d'argent que demande une communauté commune par rapport à une ville comme Nîmes, Montpellier ou tant d'autres, on aurait le même somme d'argent on révolutionnerait toutes les Cévennes. C'est-à-dire, on ferait des routes où on pourrait rouler plus facilement. Mais bon, c'est vrai, ça fait aussi partie du cachet de la difficulté circulaire chez nous. Mais c'est vrai, quand on entend la ruralité, mais on voit la ruralité, on la voit de la ville, pas souvent on la voit de la campagne. Et ça change un peu le problème. Ouais. Et moi j'essaye, on essaye de dire que la ruralité existe, et tous les élus de la communauté commune sont d'accord pour défendre notre territoire, qu'il soit habité, qu'il soit vivant, et voilà. Et c'est vrai que depuis les années 60, la communauté commune, la population augmente.
La population augmente, voilà. C'est quand même un signe très positif sur un territoire. Et donc du coup, le risque numéro un pour vous, ce serait que la population baisse ?
Baisse, voilà, et que petit à petit, les services, les tout-bibles, les épiceries, ouais. Les commerces, tout ça.
Ce qui fait que les gens viennent et peuvent s'installer. Du coup, là, vous êtes en train finalement de me dire que ce paysage très contraint, vous me parlez de rudesse, paysage très difficile en quelque sorte pour l'exploitant agricole, pour l'habitant, avec ses routes un peu tortueuses, etc. C'est finalement une chance, c'est finalement également une chance pour lui.
Oui, c'est une chance, mais voilà, en même temps, il faut quand même prendre en compte que les transports, ça devient important. Ouais.
Tu parles pas. Monsieur André est avec sa petite fille, on est chez lui. Monsieur André, votre défi finalement, le défi d'une commune comme Gabriac, c'est, vous l'avez dit, accueillir de nouvelles populations, garder les services. Et finalement, le rôle de l'élu là-dedans, est-ce que c'est pas faire de la médiation et faire le relais entre un paysage, des terres et des gens ?
Oui, c'est ça, mais... Mais on le fait sans s'en rendre compte.
C'est pas écrit dans l'émission
d'élu.
C'est pas
écrit dans l'émission
d'élu. C'est votre quotidien, en fait. C'est le dialogue entre
de tous les élus de la vallée, je suis convaincu.
Est-ce qu'il n'y a pas un contraste ou, disons, un paradoxe entre un lieu remarquable, on parle de la corniche des Cévennes, la vallée française, c'est des termes qui sont connus, reconnus, où on vient s'amuser, où il y a quand même un développement touristique important. Mmh. Les gens viennent se baigner, s'amuser, profiter. Et puis à côté de ça, il y a là, vous l'avez dit, la rudesse du territoire, les difficultés, l'avenir incertain, etc.
Oui, mais c'est ce qui fait le charme du pays et ce que viennent chercher. C'est pas le touriste qui va au Club Med ou ailleurs qui vient ici. Donc, les gens qui viennent ici savent ce qu'ils vont trouver. Donc, ils viennent chercher ça, ils l'ont, et à nous de préserver le paysage, de l'accueil et faire un territoire ouvert et accueillant. Voilà, tout simplement.
Pour les touristes et pour les nouveaux habitants.
Préserver les commerces, c'est la gageure de maintenant, parce que voilà. C'est vrai que les épiceries, c'est difficile à tenir. C'est les tout-bibes, les docteurs.
Sinon, ça va, on est sur Radio Barthas.
Voilà, vous êtes sur Radio Barthas. On peut dire comme ça. Mais c'est vrai que c'est... Voilà. Tout le bien vivre, comme on pourrait dire, voilà.
Finalement, la clé, le mot-clé en vous attendant, c'est peut-être la qualité. Vous avez parlé des circuits courts, du maraîchage, des nouvelles productions, mais tout ça, si ça fonctionne, ça veut dire que c'est des choses qui sont faites de manière qualitative. C'est un territoire de qualité.
L'agriculture, c'est l'agriculture de qualité. Il y a beaucoup de producteurs bio. Voilà, donc c'est la... c'est la clé de notre pays. Produire des produits qu'on ne fait pas ailleurs.
Et donc un paysage.
Voilà, et les paysages qui suivent, remettre des parcelles en état, comme ça se fait dans le cadre de terres rurales, il y a quelques installations de maraîchers. Voilà, il faut continuer dans cette voie. Et puis voilà.
Bien.
Et trouver des mains pour le faire, des gens qui sont convaincus que travailler à la main, c'est pas ringard.
C'est pas ringard, c'est moderne, c'est d'actualité. Voilà. Bon, merci beaucoup, monsieur le maire, pour m'avoir accueilli chez vous ici à Gabriac. On a parlé de solidité rurale, d'arbres à pin. C'est comme ça qu'on nommait le châtaignier, me semble-t-il. Vous regardez vers l'avant, ça fait plaisir. Et puis on a entendu votre quotidien, le téléphone qui sonne, la voix de votre petite fille qui s'amusait à côté. Voilà, on a passé une petite demi-heure avec vous, c'était très plaisant. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était l'Esprit des lieux sur Radio Bartas. À la technique, nous avions Aurélien. Et à l'écriture et à l'animation, Éric Dessolier. Rendez-vous dans 15 jours, même heure, pour une rediffusion ou pour un nouvel entretien. À bientôt.